Vous êtes sur RTL.
Votre journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une, les pistes pour rendre plus attractifs les métiers liés au grand âge.
Un rapport va être remis au gouvernement. Il propose de revaloriser les salaires pour mettre fin à la crise des vocations. Il faudra encore être patient à Clermont-Ferrand et en Champagne-Ardenne. Partout ailleurs, retour à la normale sur le réseau SNCF. Le Brexit, la tragicomédie continue. Boris Johnson espère encore obtenir une sortie en douceur pour le 31 octobre. Et puis Marseille rassure ses supporters en football. Victoire 2-0 contre Strasbourg après 4 matchs sans succès.
Donc dans 13 minutes un surf de l'info avec un Cyprien Signy rassuré. Bonjour Cyprien.
Bonjour à tous.
Vous surfez déjà avec la présidentielle de 2022.
Eh oui, car prendre du recul c'est prendre de l'élan comme le disait le philosophe MC Solar.
À deux fois le temps d'ici 7 heures.
Pluie localement soutenue encore à Grasse aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes. On y attend 20 degrés.
RTL Matin.
Ce sont des métiers qui ne font plus rêver.
Et qui vont pourtant être de plus en plus indispensables dans les années qui viennent. Les métiers liés au grand âge, à domicile ou dans les établissements spécialisés, ont peine à recruter. Alors que le nombre de personnes de plus de 85 ans augmente, les candidatures ont plongé de 25% en 5 ans. Une mission confiée à l'ancienne ministre Myriam El Khomri doit proposer des pistes pour rendre ces métiers plus attractifs. Son rapport sera remis la semaine prochaine. Voici en avant-première pour RTL les premières pistes avec vous. Anaïs Bouisson, on va d'abord jouer sur le portefeuille.
Oui, sur les salaires d'abord. Priorité au métier de l'aide à domicile. Aujourd'hui, pour les salariés qui permettent aux plus âgés de vivre chez eux, la situation est catastrophique. 2 salariés sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté et les employés peuvent rester bloqués au SMIC jusqu'à 13 ans. Le rapport proposera donc de revoir les salaires à la hausse. Coût estimé de la mesure au minimum 200 millions d'euros dès l'année prochaine. Ensuite, c'est le transport qui devrait être mieux pris en charge. Payer les frais kilométriques, avoir plus facilement une voiture de fonction, voire négocier des parcs de véhicules à prix réduit pour les aides à domicile. Enfin, le rapport préconisera de mieux former les personnels tout au long de leur vie, aider leur embauche en créant des plateformes de recrutement partout en France, spécialisées sur les métiers du grand âge et en supprimant le concours d'aide-soignant, trop cher et décourageant pour les étudiants.
Anaïs Bouisson.
Et à 7h20 sur RTL, gros plan sur le coup de pouce aux aides à domicile. 3 minutes pour comprendre avec Yves Calvi.
Retour à la normale aujourd'hui à la SNCF après un week-end chaotique. Il n'y aura plus de perturbations pour les TGV, les Ouigo et le Transilien. 3 trains sur 4 pour les TER, 2 trains sur 3 pour les Intercités d'après les prévisions de l'entreprise. Notez tout de même qu'il n'y a quasiment aucun train ce matin à Clermont-Ferrand. Situation très compliquée également en Champagne-Ardenne. Renseignez-vous donc avant de vous rendre en gare. Les cheminots ont pris les usagers par surprise vendredi en brandissant leur droit de retrait. Tout est parti mercredi d'un accident dans les Ardennes. Le conducteur était seul agent à bord, lui-même blessé. Il a dû porter secours aux passagers. Depuis, les syndicats dénoncent ce mode de fonctionnement qui permet de faire rouler des trains sans contrôleur. Pour eux, c'est dangereux, ce que conteste le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebbari.
Ce système de conduite seule à bord, c'est un système qui est utilisé depuis plus de 15 ans en Île-de-France, qui équipe 99% des Transiliens et qui, en région, équipe 3/4 des trains. Ces trains, ils sont spécialement équipés pour cela. Il y a des caméras vidéosurveillance, il y a un interphone pour discuter avec le conducteur quand on est voyageur, et les agents sont formés. Et ce système est homologué et par ailleurs très répandu partout en Europe. Donc il y aura une enquête de sécurité. J'ai par ailleurs moi-même diligenté une enquête du bureau d'enquête et analyse du transport terrestre pour faire toute la lumière sur les circonstances ferroviaires et routières. Mais je veux dire par là que ce mode d'exploitation, il est normal, il est nominal à la SNCF.
Jean-Baptiste Djebbari, invité de Philippe Robuchon hier soir sur RTL. En bref, départ annoncé de Mathieu Pigas, l'actuel PDG de la banque Lazare en France. Il quittera ses fonctions le 31 décembre pour un projet personnel, on n'en sait pas plus. Mathieu Pigas, propriétaire notamment des Inroc, a récemment revendu une partie de ses parts dans le journal Le Monde.
Le Brexit, c'est toujours le statu quo.
Pour ceux qui n'ont pas suivi, on rappelle les épisodes précédents. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a fait valider un accord de sortie la semaine dernière, par Bruxelles. Il devait ensuite obtenir l'aval de ses députés samedi à Westminster. Mais le fragile château de cartes s'est encore effondré. Les parlementaires ont demandé un nouveau report, ce que refuse Boris Johnson. La date du 31 octobre ne tient plus qu'à un fil. La situation pourrait peut-être se dénouer dans la journée, Marie Billon.
Et oui, et la première volée de bois vert viendra du nord, d'Édimbourg, où des députés ont saisi le tribunal. Ils estiment qu'avoir envoyé non pas une, mais trois lettres à Bruxelles pour demander une extension est une faute grave. Joanna Cherry, du parti indépendantiste écossais, a parlé à la BBC.
La troisième lettre du Premier ministre, la seule qu'il ait signée, essaie d'annuler la demande de report. Nous la tâtons en justice et nous avons une audience au tribunal à 11h du matin.
Ce ne sera pas non plus une partie de plaisir à Londres. Ce que Boris Johnson n'a pas pu faire samedi, il le retente aujourd'hui, le vote sur son deal. Mais ce n'est pas si simple. Il faut d'abord que le président de la Chambre accepte que le Premier ministre recycle le texte de samedi. Si c'est oui, alors roulement de tambour. Les députés diront-ils oui ou non? Selon Keir Starmer, en charge du Brexit chez les travaillistes, ce pourrait bien être un oui. Mais
on ne pense pas que ce deal soit bon, mais s'il est conditionné à un second référendum, nous pourrions peut-être l'accepter.
Le problème, bien sûr, c'est que Boris Johnson n'en veut pas de ce second référendum.
Toujours aussi compliqué, n'est-ce pas? Marie Billon à Londres pour RTL. Élection législative en Suisse, la droite populiste reste majoritaire, mais perd du terrain alors que les Verts progressent après une campagne largement marquée par les questions climatiques. Ils s'imposent comme la quatrième force politique du pays. Trois jours d'émeute au Chili, le bilan est déjà de 7 morts. L'état d'urgence est étendu aux principales villes du pays. Ce sont les pires émeutes que le pays ait connues depuis des décennies. Le Chili est miné par les inégalités sociales. C'est la hausse du prix des tickets de métro qui a mis le feu aux poudres.
Allez, une courte pause dans ce journal et puis ensuite du football. Marseille renoue avec la victoire. Enfin.
RTL Matin, Julien Cellier.
Allez, 6h38 minutes, la suite de votre journal sur RTL. Le week-end s'est bien terminé pour l'OM en Ligue 1 de foot.
L'OM a battu Strasbourg 2-0. C'est la deuxième victoire du club à domicile cette saison après 4 matchs sans succès. On respire un peu mieux du côté de la Canebière, mais aussi chez les Signy et les Celliers. Le milieu de terrain, Maxime Lopez.
C'est un soulagement parce qu'on voit que malgré les 4 derniers mauvais résultats, ben on se retrouve quand même en haut du classement. Voilà, je crois qu'on est 4e ce soir, donc on a de la chance, il y a des résultats favorables et on a fait une bonne entame de match. Je pense que depuis le début de la saison, notre gros problème c'était ça, c'était les premières mi-temps et les entames de match. À domicile, il faut qu'on mette la pression, il faut qu'on essaye de marquer, c'est ce qu'on a fait ce soir. Donc après déjà, quand on marque au bout de 10 minutes, on est un peu plus soulagé. Et c'est plus important d'aborder un match tel que celui du PSG en ayant gagné qu'en ayant perdu.
Maxime Lopez avec Hugo Hamelin, c'est sûr. Les deux autres résultats de la 10e journée de Ligue 1, Saint-Etienne a battu Bordeaux 1-0, victoire de Monaco à domicile contre Rennes, 3-2. Et puis au lendemain de la défaite du 15 de France au mondial de rugby face au Pays de Galles, on retiendra les excuses de Sébastien Vahamaina. Il avait été expulsé après un violent coup de coude. J'ai complètement pété les plombs, c'est totalement indéfendable. Opération contrition captée par une caméra dans le vestiaire après le match. Si vous avez la chance d'être en vacances, on finit ce journal par une idée de sortie. On vous emmène au château de la Brède, c'est à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux. Et c'est bien là que naquit, il y a 330 ans exactement, un certain Montesquieu, dont la dernière descendante est morte il n'y a pas très longtemps, c'était en 2004. Visite guidée, Jean-Marc Terrier.
Une longue allée gravillonnée traverse ce parc de 150 hectares qui permet d'accéder au château. La légère pluie fine qui tombe sans discontinuer est loin de dissuader visiteurs et vacanciers.
On avait envie de concilier une promenade dans la nature et une visite culturelle.
Et c'est vraiment très intéressant pour la culture française.
Bienvenue à tous. Je vais vous raconter l'histoire de ce château et surtout l'histoire de l'un de ses plus célèbres propriétaires qui était Montesquieu.
Charles-Louis de Secondat, qui deviendra Montesquieu, est né ici le 18 janvier 1689. C'est Charlotte, la guide de ces lieux, qui assure les commentaires.
Avant d'être un écrivain, Montesquieu c'était un vigneron et un propriétaire terrien.
La chambre, quasiment d'époque du 17e, abrite également son bureau, où il a écrit entre autres les lettres persanes et l'esprit des lois.
7 ans pendant lesquels ce livre s'est arraché comme des petits pains.
J'avais envie de venir, j'avais vu des avis sur internet, ça m'a donné envie d'y aller.
Pendant ses vacances de Toussaint, le château est ouvert tous les jours de 14h à 18h.
Jean-Marc Terrier.
Merci beaucoup Jérôme.
Je vous en prie.
D'autres visites guidées peut-être avec vous tout à l'heure dans le journal de 8h. Le temps...